Arcadia, Jacques Lavergne, bonjour. Arcadia, l'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas, Victor Hugo, déjà au XIXe siècle. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Deuxième émission enregistrée au laboratoire Arago, dans cet observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau département du laboratoire, le Biodiversarium. Bonjour à tous, et bien on se retrouve, j'allais dire au laboratoire Arago, mais pas tout à fait, hein, on est dans la maison voisine, mais c'est quand même, ça reste le laboratoire Arago, on est au Biodiversarium, donc à Bagnoul-sur-Mer bien sûr, et le Biodiversarium c'est deux entités, un aquarium et un jardin méditerranéen, et je suis reçu par Grégoire Perrin qui en est le responsable, et Pierre Parmentet, qui est médiateur scientifique. Alors Grégoire Perrin, qu'est-ce que c'est que ce biodiversarium ? Ça existe depuis combien de temps d'abord ? Parce que c'est une création assez nouvelle.
Alors c'est une création assez nouvelle. Il y a toujours eu un aquarium à Bagnouls depuis 1885. C'était déjà intégré dans le laboratoire. Et en 2010, en fait, il y a eu l'ouverture aussi d'un jardin sur les hauteurs de Bagnouls, qui était un ancien centre d'écologie terrestre. Et en 2010, du coup, ce centre d'écologie terrestre a fermé et est devenu aussi un site public, un jardin qu'on pouvait visiter. Et c'est à ce moment-là qu'en rassemblant l'aquarium et le jardin, a été créé le Biodiversarium, dont l'objectif, c'est de présenter la biodiversité, justement, de notre région.
Donc c'est un échange entre le public et le monde scientifique, le monde de la recherche, puisque le laboratoire Arago, c'est une université, c'est aussi des enseignants-chercheurs, des gens qui galopent un peu le monde entier, surtout les mers et les océans. Et donc vous faites, vous les rapprochez finalement, vous rapprochez deux mondes, ceux qui ne savent pas et qui aimeraient savoir et ceux qui savent.
C'est exactement ça, on est des passeurs de savoir, c'est comme ça qu'on aime bien se définir.
C'est magnifique comme nom.
Et en fait oui, on a deux objectifs, la biodiversité de la région, donc présenter ce qui vit dans la mer, ce qui vit sur terre, vraiment autour de Bagnouls. Et puis l'autre objectif, effectivement, comme on est partie intégrante de l'observatoire océanologique, c'est de présenter aussi ce que les travaux de recherche menaient ici.
Alors, première question, on reviendra à l'aquarium tout à l'heure, mais le jardin méditerranéen, pourquoi un observatoire océanologique a un jardin ? À quoi ça sert ? Quel est le rapport avec la mer et les océans ?
Alors c'est un peu particulier, effectivement, c'est la volonté d'un des directeurs du laboratoire Arago en 1957, Monsieur Petit, qui a eu envie justement de compléter le côté marin par un centre d'écologie terrestre. Et du coup, on loue 3 hectares d'un grand domaine qui est le domaine Retsch à Bagnouls. Et ces 3 hectares, c'était pour faire de l'étude de l'écologie terrestre, en fait. Et du coup, depuis 1957, on a cet espace-là. Et en 2010, les derniers chercheurs qui étaient vraiment sur la partie terrestre ont pris leur retraite. Et il a été décidé de ne pas continuer cette recherche terrestre. Et on a du coup transformé ce site qui était pour les étudiants et les scientifiques en un site public, où on accueillait du coup les gens pour visiter le jardin.
Alors quand on va au jardin, qu'est-ce qu'on voit ? Que vous avez des espèces, c'est sur 3 hectares, donc c'est quand même assez
conséquent. Ouais, c'est assez conséquent.
C'est un beau jardin, 3 hectares, ça va au-delà du jardin, c'est un domaine avec, j'ai lu, 500 espèces végétales.
Exactement, alors on est vraiment sur, nous, les écosystèmes de notre région. Du coup, quand on fait la visite de ce jardin, on découvre une petite partie d'abord avec des terrasses, puisque c'est un endroit où il y avait des cultures avant que ce soit un centre d'écologie. C'est sur ces terrasses-là, on va découvrir des plantes qui viennent du monde entier, mais qui sont adaptées au climat méditerranéen. Et après, il y a un sentier qui se promène dans l'arrière-pays Banyulinque. Bon, là, on va découvrir un peu, on traverse une prairie à brachypodes, on traverse le maquis,
brachypodes, il faut traduire. Hein.
Alors, les prairies à brachypodes, le brachypode, c'est une petite une herbe. C'est typiquement ce qu'on appelle l'herbe à mouton. Donc, c'est des espaces un peu ouverts comme ça, au milieu d'une forêt, ce genre de choses. Donc, on découvre le maquis, la forêt méditerranéenne, toutes les espèces qu'on va retrouver, nous, dans nos petites montagnes qu'on a derrière Banyuls.
Il faut du monde pour travailler ça. Ça, 3 hectares, c'est pas rien, là. C'est presque professionnel. Hein.
On a un jardinier.
C'est pas un jardin de curé, il doit pas s'ennuyer quand même.
Ouais, alors, il faut bien comprendre que nous, on laisse faire la nature. C'est-à-dire qu'on a une gestion un petit peu différenciée des espaces qu'on a dans notre jardin. Donc, ce jardin-là, on le laisse vivre. On intervient très peu dedans. On n'arrose pas, par exemple. C'est vraiment pour ça qu'on a des plantes méditerranéennes.
Parce qu'ici, ça a soif quand même.
Et de plus en plus, malheureusement. Il souffre quand même beaucoup, notre jardin, depuis quelques temps, là. Depuis quelques années, on a vraiment de l'impact sur la sécheresse sur nos
espèces. C'est un choix de ne pas arroser ou c'est pour montrer ce qui se passe véritablement lorsqu'il n'y a pas d'eau ?
C'est un choix et du coup, là... Enfin, non seulement c'était un choix à la base, c'était vraiment une volonté d'avoir... Tout un discours sur l'adaptation des plantes à la sécheresse, comment elles font pour survivre dans un climat qui est le nôtre. Et depuis là 2 ans, on s'oriente aussi vers quelque chose qui est plus observer l'impact du changement climatique, puisqu'on voit bien que notre jardin y souffre. Et comme nous, on n'a pas d'apport en eau, on peut un petit peu aussi sensibiliser à tout ce qui est en train de se passer au cours de ces dernières années.
Donc 3 hectares, sur ces 3 hectares, on a dit 500 espèces végétales, on ne va pas les énumérer d'autres, mais allez, globalement, les plus connues, celles que le public peut à peu près visualiser de quoi il s'agit.
Qu'est-ce que tu dirais, toi, Pierre ?
Le chêne liège, du coup, très typique de la région, effectivement, on va avoir du pin parasol, on va avoir, alors on prend les prairies brachypodes, effectivement, qui sont de l'herbe à mouton qu'on va pouvoir trouver dans ces pâturages-là. Et on a aussi des plantes qui sont affiliées à des climats qui sont méditerranéens mais qui ne sont pas de la Méditerranée. On a des plantes qui vont venir de Californie, qui viennent du Pérou, qui viennent du Chili.
Ça veut dire quoi, affiliées à la Méditerranée quand on est en Californie ?
Ils ont des climats qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on a des étés qui sont chauds et arides, vraiment très secs, et on a des hivers qui sont plutôt doux et humides. Et donc on a des plantes qui peuvent résister à ce genre de température, à ce genre de conditions en fait tout simplement. Et donc là on va aussi présenter des plantes comme des grévillas qui sont des plantes dont certaines sont en fleurs quasiment toute l'année, qui permettent du coup même aux pollinisateurs d'avoir toujours une ressource sur le jardin tout simplement. Donc voilà, en fait c'est vrai que si on devait résumer le type de plantes qu'on va avoir, c'est vrai qu'on a des plantes méditerranéennes, comme j'expliquais, avec une suburée. Hein. C'est là où on va trouver une forêt de chêne liège et du pin parasol, par exemple. Mais en fait, c'est 500 espèces, c'est compliqué de pouvoir en choisir là-dedans.
Je ne vous ai pas posé la question quand on a démarré, Grégoire et Pierre, mais votre formation, quelle est-elle ? Parce que quand on est de l'autre côté de la rue, chez les chercheurs, on voit à peu près quel cursus, ça n'est pas encore des spécialités, il y en a beaucoup, quel cursus ils ont choisi, mais vous ? Comment vous êtes arrivé ici ?
C'est assez particulier, ouais. Enfin, c'est un long parcours.
Je me doutais que c'était
intéressant. Le métier de la médiation scientifique, c'est un peu nouveau. Il y a des formations qui existent maintenant, mais ça se met en place, on va dire.
Ça veut dire qu'il faut avoir à la fois la connaissance et la pédagogie.
Voilà. Alors, moi, par exemple, je suis ingénieur en... Je suis ingénieur en mécanique, à la base.
Ah oui, on est quand même très loin du sujet. Oui.
Mais j'ai repris des études... 35 ans en histoire des sciences et médiation culturelle. Et c'est ça qui m'a amené vers plus la transmission des choses que faire de la science. Et donc voilà, c'est ce master en histoire des sciences et médiation culturelle qui m'a amené à ça.
Et vous, Pierre ?
En fait, c'est assez similaire finalement.
Tu étais dans la mécanique aussi ?
Je n'en ai pas du tout dans la mécanique, par contre, j'ai fait du coup de la biologie à la base, donc à Brest, en Bretagne. Et après, j'ai fait aussi un master d'épistémologie, donc la même chose que Grégoire. Et voilà, on fait de l'histoire des sciences, notamment de philosophie des sciences, enfin, un petit peu de tout là-dedans. Et en même temps, j'étais aussi médiateur scientifique dans un autre aquarium, du coup, en Bretagne.
Ah oui, vous avez fait le grand écart, parce que entre la Bretagne et ici.
C'est ça, effectivement, il y a une petite adaptation
à faire. Quoique, je crois que M. Lacasse-Dutier, qui est le fondateur de la maison, est allé à Plogoff d'abord.
À Roscoff. Il a fondé d'abord une station marine à Roscoff, en Bretagne.
Avant de venir ici.
Exactement.
Et de finir ici, puisqu'il est enterré dans le site du laboratoire.
Juste sous le laboratoire.
Alors, ce jardin méditerranéen, ça en a compris, mais après, il y a l'aquarium qui est beaucoup plus connu apparemment, hein, puisqu'il y a très longtemps qu'il existe, avant de devenir l'aquarium moderne dans lequel vous me recevez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet aquarium ? Il y a des poissons, j'imagine.
Ouais, on est installé là depuis 2017. On a déménagé tout un nouveau bâtiment, en fait, qui est assez récent. Et on va y découvrir aussi les écosystèmes marins. C'est un peu le même principe au jardin. On est toujours sur que des espèces méditerranéennes. Chaque bassin, en fait, il représente un petit morceau de la côte qu'on a dans notre région. On va passer de la côte sableuse, qu'on va avoir, par exemple, entre Canet et Argelès, et à la côte rocheuse, qu'on a, nous, autour de Banyuls. Et on va ensuite de plus en plus profond dans la mer. Donc chaque petit... C'est une plongée en Méditerranée.
Ça c'est limité à la Méditerranée.
Exactement.
Même si les activités du laboratoire Rago vont beaucoup plus loin que la Méditerranée.
Alors, c'est vraiment... Oui, là quand nos scientifiques, nous, effectivement, travaillent sur des thématiques qui sont beaucoup plus larges que celles de la Méditerranée. Enfin, il y en a qui sont sur... sur du local, mais il y en a beaucoup effectivement qui travaillent sur l'Antarctique, sur des zones beaucoup plus éloignées de chez nous.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme poisson ? Est-ce qu'il n'y a que des poissons d'abord ? Il y a bien autre chose, j'imagine.
Et non, finalement, en fait, pareil, on a à peu près 300 espèces dans nos différents aquariums. On a déjà pas mal de plantes, en fait. On peut avoir un peu des algues, ce genre de choses. Mais ce qui fait la richesse, nous, de la biodiversité, du milieu marin que l'on a, c'est ce qu'anciennement on appelait les invertébrés, les animaux qui n'ont pas de squelette interne comme nous on peut avoir avec un cerveau. Ça va être les éponges de mer, ça va être les coraux, les gorgones, et tout ça, c'est énormément d'espèces finalement qui sont au total beaucoup plus nombreuses que les espèces de poissons qu'on a plus l'habitude de connaître et de reconnaître.
Et alors, ces poissons, ces espèces, elles ont été prélevées dans la Méditerranée.
Alors, il y a plusieurs façons qu'on a d'avoir des poissons. Effectivement, les espèces, on va aller soit les prélever en milieu marin. Et là, on a une politique, nous, de faire tourner les populations. C'est-à-dire que dans nos aquariums, nous, on a plutôt des juvéniles. Ce sont des jeunes spécimens, des jeunes individus qui vont rester un temps avec nous et qu'on relâchera en mer.
Ils vont se débrouiller quand ils vont être relâchés ?
Eh bien, on est plutôt... Ouais, si on le fait, c'est parce qu'on sait que ça marche.
Vous ne le savez pas, vous ne les reconnaissez pas quand vous plongez.
Alors, on a déjà fait des choses. On a pucé des poissons pour voir s'ils allaient bien quand, justement, surtout des espèces emblématiques.
Parce qu'on puce des poissons.
Ouais, le mérou, par exemple, qui est une espèce emblématique et protégée. Le mérou qui avait passé très très longtemps dans notre ancien aquarium... On n'a pas pu l'intégrer dans nos nouveaux aquariums.
Je me souviens de lui.
Voilà, et bien lui, il a été pucé et relâché dans notre réserve marine qui est juste autour de chez nous. Alors c'est un peu les conditions idéales aussi, hein, puisque c'est une zone protégée. Et il va très bien. On a pu le suivre pour voir s'il serait habitué au milieu marin.
Alors comment, en puçant un poisson, on sait à peu près où il peut se trouver, mais comment on sait qu'il va bien ?
Et bien en fait, ce qui est important, c'est de... Le mérou est un animal qui va être territorial. Déjà, quand il va s'installer à un endroit, s'il y reste, c'est qu'il y est bien. Donc si on sait qu'il y est régulièrement et qu'on le revoit toujours au même endroit, c'est qu'il a trouvé son territoire et qu'il s'est de nouveau intégré au milieu marin. Et que le revoir régulièrement, c'est qu'on sait qu'il se nourrit, qu'il est en bonne santé.
Parce que c'est pas évident, si on relâche un lion dans un zoo en France, si on le relâche chez lui, je pense qu'il a plus de chances de mourir que de pouvoir subsister.
Tout à fait. Alors, la façon dont on relâche, c'est pas on les remet tout de suite en mer. Ils peuvent passer déjà par notre quarantaine. Tous les animaux qui viennent chez nous passent par la quarantaine qu'on a, un bassin dans lequel on va les habituer à notre eau de mer, on va les habituer à la façon de se nourrir qu'ils auront ensuite dans nos bassins. Et on peut refaire la même chose avant de les remettre en mer. Ils repassent par la quarantaine, on les réhabitue à des proies vivantes, par exemple, ce genre de choses. Et au final, on les réadapte à leur futur milieu.
Donc le mérou, c'était Jojo, non ? Comment vous l'appeliez ?
Je crois qu'il y a... Jojo, c'était un peu l'emblème.
L'emblème de l'ancien aquarium. Donc toutes ces plantes et tous ces animaux, il faut les soigner. C'est un peu comme le jardin. Alors le jardin, vous m'avez dit, on a un seul jardinier. Mais pour s'occuper de ces animaux et de ce milieu, il faut du personnel.
Effectivement, alors on a de la chance, nous, on fait partie de l'Observatoire océanologique, c'est-à-dire qu'on est un des services, on est le service de médiation scientifique du laboratoire Arago. Et il y a un des services, un autre, qui est un service mutualisé d'aquariologie, où il y a des aquariologistes, des soigneurs, qui s'occupent des animaux. Alors, il y a deux équipes dans ce service-là. Il y a une équipe qui est vraiment consacrée à l'aquarium, où ils sont trois. Donc, on a trois soigneurs qui s'occupent quotidiennement de nos animaux. Et puis, on a aussi une équipe d'aquariologistes de recherche, où là, ils vont produire des modèles, ils vont produire des larves et des animaux pour les scientifiques. Et ils font aussi partie en fait, de l'équipe parce qu'ils s'occupent aussi des animaux qu'on a dans, le bassin, dans les bassins, notamment les week-ends où il y a des gardes qui tournent. Donc il faut, nous, le vivant, il faut s'en occuper tous les jours. Il n'y a pas de pause, on peut pas. Voilà. Donc il y a tout le temps quelqu'un qui s'en occupe. Donc ils sont à peu près 8-9 à tourner et 3 permanents à s'occuper de nos animaux.
Oui, donc ça fait quand même une équipe considérable. Vous avez donc du personnel, vous êtes 4 à la médiation.
Si je voilà, vois. On est 4 à la médiation.
Donc plus les soigneurs, plus les gens qui sont à la réception en bas, donc ça fait quand même une grosse unité.
Voilà, on est alors, nous, dans le service biodiversarium, on va être 9. Et ensuite, avec le service d'aquariologie, plus je vais rajouter les 3 personnes qui sont vraiment dédiées à l'aquarium, donc on est une douzaine. Alors, on a aussi un fonctionnement assez saisonnier, hein, puisqu'on est dans un lieu touristique. On est beaucoup plus nombreux l'été. On a besoin de recruter pour du personnel saisonnier. On monte à 15-16 personnes l'été. On rajoute des médiations scientifiques, des agents d'accueil pour pouvoir ouvrir plus longtemps et en continu.
Le plus important de l'aquarium, c'est vers le public. Ce n'est pas tellement un outil d'étude interne au labo.
Exactement. Vraiment, nous... c'est de transmettre ce qui se passe dans le laboratoire et puis de présenter vraiment ce qui vit dans le coin. Donc on est vraiment, comme vous le dites, un outil qui permet de présenter les choses au public.
Vous êtes la vitrine du laboratoire Arago.
C'est comme ça qu'on se définit. Ouais. On est la vitrine de l'observatoire, exactement, du laboratoire.
En termes d'aquarium, il y en a d'autres sur cette côte
On a nos collègues en fait, avec qui on a un partenariat, ouais. D'accord, on est en... terme, c'est Oniria à Canet, qui est un aquarium, lui, qui est beaucoup plus spectaculaire, où vous allez voir des espèces qui viennent du monde entier, là, et qui a un peu moins la vocation à transmettre les sciences, même s'ils ont une petite partie aussi là-dessus. Eux, ils sont vraiment sur un voyage spectaculaire, et nous, c'est vraiment les écosystèmes marins et la science, les écosystèmes méditerranéens. Chaque bassin, nous, c'est vraiment un petit morceau de la côte.
Il n'y a pas d'animaux style dauphin ou autre
Non, pas ici. Dans la région. Alors, il faut aller jusqu'à Antibes aller voir ça. Petit à petit, ça ne sera plus possible de toute façon. Hein. Ouais. Tout ce qui est mammifères marins, on va vers la fin des mammifères marins
en captivité.
On ne peut plus déjà faire de reproduction. Enfin, il y a plein de choses qui fait que ce sont les derniers qui sont actuellement dans les... les eaux, les parcs zoologiques.
On a eu dans cette baie de Banyuls une delphine, je ne sais pas si vous l'aviez connue, qui avait dû perdre peut-être son groupe et qui se réfugiait souvent dans le port, qui était...
Ça arrive, effectivement. Ouais, des dauphins, on en a au large, hein, qui passent de toute façon sur nos côtes. On a même des baleines. Enfin, c'est un endroit où on peut rencontrer pas mal de choses en termes de mammifères marins. On aborde un petit peu ça, nous aussi, dans notre circuit de visite, mais on ne le présente pas au public. De toute façon, il faudrait des bassins beaucoup trop grands. Ils sont très malheureux, contrairement aux poissons osseux qui, eux, s'adaptent très bien dans un bassin assez grand. Les mammifères marins, ils ont besoin d'un espace immense et c'est très compliqué.
On parle toujours du poisson rouge qui n'a pas de mémoire. Hein. On compare à nos ados 8-9 secondes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende?
Je ne suis pas un spécialiste de ça.
Vous avez à la fois les ados et les poissons.
Effectivement, on sent bien que oui, ils sont pas, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un lieu ferme. Mais c'est un peu particulier. Hein. Souvent, nous, on nous dit que c'est une prison. Effectivement, c'est une cage, un aquarium. Ils sont dans des conditions qui sont beaucoup plus agréables qu'ils n'ont en mer, finalement. Enfin, agréable, c'est un mot qui n'est pas très... qui ne correspond pas tout à fait. Mais en tout cas, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de stress, le stress qui est lié au milieu marin.
Mais il n'y a pas de liberté.
Mais par contre, il n'y a pas de liberté. Mais est-ce qu'ils sont conscients de cette liberté? Je suis absolument sûr que non.
C'est qui est différent, en fait. Selon l'anthropomorphisme, le mot liberté, vous avez des poissons qui, pendant tout le long de leur vie, vont faire un mètre carré autour de leur endroit où ils se cachent. En fait, tous les poissons ne vont pas migrer énormément, ne vont pas faire énormément de déplacements, et encore moins quand ils sont jeunes, une fois qu'ils sont atterris sur la côte. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a nos animaux. En fait, on va récupérer les juvéniles qui sont sur la côte. Donc juvéniles, c'est ceux qui ne sont pas encore matures sexuellement. Donc on va pouvoir les récupérer, et eux, pour eux, c'est vraiment une façon de se protéger que de ne pas voyager beaucoup, parce que ça les expose, en fait, finalement. Et dès qu'ils sont assez grands, évidemment, ils peuvent partir large, redescendre en profondeur, ça dépend un peu des espèces. Mais du coup, oui, effectivement, on n'a pas le même fonctionnement sur ces animaux-là. En plus, on est sur des animaux qui n'ont pas d'apprentissage parental. Donc, du coup, ils ne vont pas dépendre de leurs parents pour apprendre comment se nourrir, pour apprendre à se débrouiller, en fait, finalement, dans la mer. Donc, c'est pour ça qu'ils sont évidemment plus adaptés, effectivement, à la captivité. Après, tout dépend des espèces aussi. C'est très espèce dépendant.
Alors, ce laboratoire et cet aquarium, ce biodiversarium, au final, ça sert à quoi ? Vous avez dit, on fait de la médiation. Alors, médiation, vous la faites auprès de qui et vous la faites comment ?
Alors, une grande partie, nous, nos quatre médiateurs scientifiques dont je fais partie, on est face au public. Donc, c'est le grand public qui va visiter notre aquarium. Alors, on essaye beaucoup, nous, de mettre de la présence dans notre circuit de visite parce que c'est un petit aquarium et qu'on sait que la vie des gens, une visite où ils n'ont interagi avec personne et dès qu'ils ont pu échanger avec quelqu'un, elle passe de c'était sympa à c'était super bien.
Donc, ça veut dire vous n'êtes pas des guides, vous ne faites pas visiter, mais vous êtes présent.
On fait de l'animation. On est présent. On change nos thématiques. Là, typiquement, on a les vacances de la Toussaint qui arrivent. On va être sur l'odyssée de l'exploration au laboratoire. On a sorti tout plein d'archives, tout plein d'objets. Et donc ça, il y a un animateur, il y a un de nos médiateurs qui est là, qui est présent et qui va... On fait faire des jeux aux enfants, on fait plein de choses. Cet été, on emmenait pêcher du plancton les gens dans le port de Bagnouls, on ramait ces échantillons-là, on les observait.
Il y a plus que du plancton dans le port. Hein.
Et finalement, il est pas mal. On a de la chance, nous. On est quand même sur une côte assez préservée. En plus, on a la réserve marine. On est assez... Bon, il y a toujours un petit peu de microplastique ou ce genre de choses dans les échantillons, effectivement. Mais on a quand même une richesse assez... On est gâtés.
Oui, vous pensez que la réserve marine, ici, elle a permis, en tout cas, aux mérous qui ne sont plus chassés, de se redévelopper, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup à une certaine époque.
En 1973, quand la création de la réserve, ils ont compté 8 mérous entre Cerbère et Bagnouls. Et au dernier comptage qui a eu lieu en septembre, on a atteint les 700 mérous.
Ce qui est fabuleux, ce qui va permettre à certains de dire qu'il faut réouvrir la chasse, j'imagine.
Alors, ce qui est intéressant dans les réserves, en fait, ces petits morceaux protégés, le fait qu'il y ait des mérous dans notre réserve, ça a un impact sur tout ce qu'il y a en dehors de la réserve. En fait, les mérous qu'on a dans la réserve ne sont pas nés ici. Les larves, les poissons, quand ils pondent leurs œufs dans l'eau, ces petits œufs sont portés par le courant. En fait, les œufs ont été pondus bien ailleurs que dans notre réserve.
Ça veut dire que ce n'est pas les 8 malheureux qui restaient qui ont repeuplé leur réserve. C'est venu d'ailleurs et comme c'était protégé, ça a pu se développer.
Exactement, ils ont trouvé un lieu idéal pour pouvoir... Et du coup, nous, ceux qui se reproduisent chez nous, forcément ont un impact, puisque les œufs, il y a plus de reproduction chez nous qu'à l'époque où il y en avait 8. Bah, ces œufs vont permettre de coloniser de nouveaux endroits. C'est pour ça qu'on est vraiment en train de... Enfin, les scientifiques et les gestionnaires comme le parc marin ou la réserve marine, ils expliquent bien qu'il faut avoir des petits morceaux de réserve. Il ne sert à rien de protéger toute une côte avec peu de moyens et du coup d'être peu efficace. Il vaut mieux avoir des zones protégées de protection forte régulièrement disposées au bon endroit long de la côte. Et ça a plus d'impact que des très très grandes zones qui ne sont pas...
Donc ce sont des espèces d'oasis, quoi, c'est ça ?
Voilà, des sanctuaires, on va dire.
Oui. Alors, qui c'est que vous recevez, là ? Parce que le grand public, OK, il vient, il visite le labo, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi des partenariats, j'imagine, avec des scolaires, avec des établissements.
Alors, effectivement, on a une très, très grande partie de notre travail de médiateur scientifique, c'est d'accueillir des scolaires tout au long de l'année. On accueille environ à peu près 3000 scolaires par an,
oui, c'est
ce qui est déjà conséquent.
Considérable, ouais. Oui.
Exactement, donc c'est vraiment l'activité qu'on a qui nous occupe au quotidien pendant la saison, la basse saison on va dire, celle qui est un peu moins touristique. Donc là, on va leur faire des ateliers, on essaye de les mettre dans la peau des scientifiques de notre laboratoire. On part d'un travail de recherche qui se fait, et on va leur essayer de les amener à faire la même chose.
Vous les trouvez où ? Parce que c'est uniquement des établissements de la région, des Pyrénées-Orientales, ou vous allez plus loin ?
Alors, en proportion, on a à peu près 70% qui viennent du département des Pyrénées-Orientales. C'est environ ça. une vingtaine de pourcents où on est sur les départements limitrophes, on va voir l'Aude, le Gard, des gens qui viennent de Montpellier jusqu'à Toulouse, enfin c'est la région Occitanie on va dire, c'est à peu près une vingtaine de pourcents, et on a 10% où là c'est plus des classes qui sont en séjour dans la région, et donc ils peuvent venir de Paris, d'endroits très éloignés, mais qui passent une semaine dans le coin et qu'on va avoir nous...
Et ils n'arrivent pas par hasard, vous les contactez, vous préparez ces visites, vous les préparez avec les enseignants?
Alors on a tout un... nous un... des programmes pédagogiques qu'on fait 4 ateliers à l'aquarium, 3 au jardin, que les gens vont pouvoir voir sur notre site. En fait, on est un peu victime de notre succès. J'ai pas besoin de contacter les scolaires.
Ça arrive tout seul.
C'est-à-dire que on remplit, on n'est pas très nombreux, on peut pas non plus, on prend à peu près 2 à 3 classes par jour, le mardi, le jeudi.
Oui, quand même.
On est vite plein, surtout entre du mois de février au mois de juin, là on n'a pas de créneau, quoi. Enfin, c'est compliqué.
Et c'est des classes de quel âge, Pierre? Ils ont
On a de tout, on peut avoir des tout petits des fois, donc dès de la maternelle, donc dès qu'ils peuvent se déplacer un petit peu.
Alors, c'est de la garderie là quand même.
Ils peuvent être vachement intéressés quand même. Donc,
ils sont curieux sinon.
C'est toujours pareil, la capacité d'attention d'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas la même que quelqu'un qui est au lycée évidemment. Mais donc du coup on l'occupe de façon un peu différente et on va pas faire quelque chose de très dense. On va parler des couleurs, des différentes façons de se déplacer, des formes peut-être. Donc voilà, on va adapter ça et puis on peut aller jusqu'au lycée, puis on a eu des classes préparatoires. Enfin voilà, on a quand même un panel assez, un éventail assez large en fait de scolaires qui peuvent venir ici, effectivement.
Alors comment ça se passe avec les enseignants? C'est quels enseignants qui viennent? C'est pas les profs de lettres, j'imagine, c'est plutôt des scientifiques.
Moi, c'est ça qui est particulier, on a un peu de tout. Donc on a des séjours des fois qui peuvent être organisés évidemment par les professeurs de sciences et vie de la Terre, de biologie. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y a aussi des profs, par exemple, d'anglais qui vont venir ici. Ils vont se dire, on a un peu de cours à faire en sciences en anglais, on va vouloir venir ici pour le faire. Et puis après, on a des instituteurs qui vont venir avec leurs élèves. Donc voilà, oui, non, c'est assez pluridisciplinaire, effectivement. Puis il y a aussi les capacités le fait de pouvoir communiquer des résultats, de s'exprimer à l'oral sur des thématiques qu'ils ne maîtrisent pas forcément, il n'y a pas que de la biologie là-dedans, en fait, il y a un peu de tout.
Et avec les enseignants, vous avez quel rapport? Ils vous voient comment? Comme, je ne vais pas dire comme un des leurs, mais un peu ou pas?
On a d'excellents rapports en général, effectivement, avec les enseignants, parce que on fait la même chose, sauf que nous, quand ils viennent ici, ils sont en général un peu plus contents. Parce qu'ils viennent à l'aquarium et puis on travaille pas mal sur du vivant, ils font de la manipulation, des TP. Donc oui, effectivement, l'engouement est un peu différent. Mais on travaille ensemble, donc effectivement, on va communiquer avec eux sur quelles sont leurs attentes envers ce que nous, on va proposer. Et puis voilà.
C'est-à-dire que vous préparez en amont la visite avec un programme bien arrêté?
Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Et quand ils viennent, en général, ils font souvent visite guidée plus 1-2 ateliers, enfin peu importe. Et des fois même, ils peuvent aller au jardin aussi. On fait la même chose au jardin. On peut faire de la visite guidée et de l'atelier. Donc oui, on aura un programme qu'on aura établi avec eux, mais ce n'est pas juste pour chaque classe. C'est-à-dire que la visite guidée, elle est un peu commune. Effectivement, ça va être quelque chose qui ne va pas réinventer la visite à chaque fois, évidemment. Et pour les ateliers, c'est eux qui auront choisi. Et en fonction de leur niveau, on ne va pas faire la même chose pour un qui vient, par exemple, en CE2 que quelqu'un qui sera en lycée, évidemment.
Donc j'imagine qu'ils ont un peu préparé avant pour préparer les élèves pour que vraiment ils en retirent le maximum.
Ça, c'est l'idéal.
Oui. c'est pas toujours ce qui se passe.
C'est pas toujours le cas. Il y a aussi un peu le côté sortie de fin d'année. On sait qu'au mois de mai, au mois de juin, les enseignants, ils sont plus... pendant un petit moment, je les ai pas à m'en occuper. Il y a un médiateur qui va faire ça très bien, donc il y a un peu ça. Et après, on a vraiment des gros projets pédagogiques. On va aussi intervenir dans les classes, en fait. On a un partenariat avec le parc marin, le parc marin du Golfe du Lion, où là, c'est nous qui allons dans les classes. Et là, le projet, c'est 3 séances, c'est monté en amont, on leur présente, on doit sélectionner les classes parce qu'on ne peut pas aller partout. Donc là, on a vraiment des enseignants qui prennent en main le dossier pédagogique et qui, du coup, créent avec nous les activités.
Alors, j'ai vu que vous leur parlez du comptage des mérous, des planctons, du plastique, la pollution plastique, etc. Qu'est-ce qu'ils savent, ces jeunes? Ils sont avertis ou pas?
Alors, depuis quand même une bonne dizaine d'années, l'éducation au développement durable est vraiment dans les programmes dès la maternelle même maintenant. Donc du coup, on a vraiment, nous, c'est assez impressionnant, des enfants très sensibilisés à ça. Beaucoup plus que les adultes, souvent. Parce qu'on a pas eu ça à l'école, moi, par exemple.
Il vaut mieux parce que c'est eux qui vont
exactement.
Se taper le bazar. Après, quand on sera plus là, on va leur laisser une planète dans un état pitoyable. Donc il vaut mieux qu'ils soient avertis dès leur plus jeune âge.
Exactement. Ils sont... qui sont impressionnants, des fois un peu virulents même. C'est dans le partenariat avec le parc, justement, on essaye de faire un travail autour juste de la gestion d'un espace marin, avec tous les utilisateurs qui sont dedans, que la mer, bah, vous avez des animaux, vous avez des plantes, mais il y a aussi des pêcheurs, il y a des touristes, tout ça doit cohabiter. Et du coup, quand on essaye de mettre des règles pour que tout le monde puisse profiter de ce milieu-là, les enfants sont, ils sont beaucoup dans l'interdiction, ils veulent protéger tout. Ils n'ont pas encore trop la culture du consensus. On essaye de leur apprendre ça aussi.
En matière environnementale, c'est le consensus n'est pas toujours la meilleure des choses. Hein. Qu'ils soient. Donc, ils sont avertis, ils sont intéressés. Ils sont... Donc, quand ils repartent d'ici, ils ont quand même acquis.
C'est un peu
de l'information, de la technique.
C'est ce qu'on espère, en tout cas. Mais ce qui est un petit peu difficile, c'est justement pour nous, un peu frustrant même, on les a, nous, pendant 2 heures. On les a pas eu avant, on les aura pas après. Donc, c'est la limite de notre... la différence vraiment qu'il y a avec les enseignants, qui, eux, voient évoluer tout au long de l'année leurs élèves. Nous, on leur apprend des choses, mais on ne pourra jamais savoir vraiment ce qu'ils ont retenu. C'est ça qui est un petit peu la limite.
Vous ne pouvez pas les pucer comme le mérou.
On ne peut pas les pucer. Il n'y a pas d'interrogation écrite, nous. Il n'y a pas de... Voilà, donc on ne peut pas vraiment... Alors, c'est le retour des enseignants qui, s'ils reviennent chaque année, c'est que ils y trouvent un compte. Ce qui est très important, c'est que tous nos ateliers, tout ce que l'on fait, on est vraiment sur de la science. Du coup, on applique ce qu'on appelle la démarche scientifique. C'est ce que attendent d'ailleurs les enseignants. Vraiment comment les sciences se font. Parfois, c'est presque plus important qu'ils aient compris ça que le contenu même de l'atelier. Qu'ils se soient posés des questions, qu'ils aient mis des hypothèses, qu'ils aient pu les tester par des expériences. Et déjà, si nous, ça, ils ont bien compris que c'est comme ça que la science, ça se passe, on a réussi un peu notre mission.
Il y a des élèves, des enfants, des ados qui sont climato-sceptiques, qui vont contester un peu ce que vous avez.
Ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si toi, Pierre, tu as déjà...
Ça m'est jamais arrivé, non. En général, ils sont très, très au courant, oui. Ça peut arriver des fois d'accompagnants qui sont...
C'est plus parfois.
Ouais. Les adultes, mais non, les enfants en général, oui, comme le disait très bien Grégoire, effectivement, ils sont très avertis, donc ils comprennent assez facilement les enjeux. Et puis, l'échange est quand même assez simple là-dessus, effectivement.
Et les enseignants, alors donc, qui sont plus âgés, s'ils viennent ici, j'imagine qu'il y a déjà une sensibilité quand même à ces questions. Sinon, ils ne mèneraient pas leurs élèves.
Et puis, de toute façon, nous, on est allés vers ce genre de thématique-là. Le comptage de mérou, c'est vraiment comment on gère un espace protégé. L'observation du plancton, là, on est plus sur un côté naturaliste. On leur apprend à comment décrire une espèce, à comment l'observer. Là, on est vraiment sur des techniques pour, des techniques de laboratoire, on va dire. Et après, on a 2 thématiques où ça, c'est les grands enjeux. C'est ce qu'on nous demande, en fait, aussi. Du coup, d'où la thématique des pollutions plastiques sur le milieu marin, l'impact sur la mer Méditerranée et l'impact du changement climatique. Donc, si on a choisi ces thématiques-là, c'est parce qu'il y a des travaux de recherche là-dessus au laboratoire et que c'est aussi ce qu'ils attendent, les enseignants. Ils ont besoin de... C'est dans leur programme, quoi. Donc, du coup, on va faire ces thématiques-là.
Ce sont des travaux pratiques pour eux.
Exactement. Ça complète ce qu'ils font en classe.
Comment vous leur expliquez le comptage des mérous? Comment on compte des mérous qui bougent tout le temps? Vous avez dit qu'il y en avait 700. J'imagine que ça doit être assez complexe pour les répertorier.
Alors, il faut être assez nombreux.
On se met dans l'eau, un endroit, et puis on compte tout ce qui passe.
C'est un peu plus technique. Ouais, c'est un peu plus organisé. On a ce qu'on appelle des trinsèques, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, 8 plongeurs qui vont avoir chacun une bande dans l'eau, qui vont avancer tout droit devant eux, et qui vont devoir, effectivement, compter les mérous, mais pas n'importe comment. Ils vont devoir, à chaque fois qu'ils aperçoivent un mérou, noter à l'heure à laquelle ils l'ont aperçu, la taille qu'il faisait. Donc il faut arriver à... c'est une capacité qui s'apprend un petit peu à se dire celui-ci va à peu près 32 cm. Et puis la direction dans laquelle il va. Parce que le copain d'à côté, qui fait la même chose, s'il voit un mérou 30 secondes après qui faisait la même taille et qu'elle est dans la même direction, quand on réunit toutes les données, on finit par se dire celui-là, on l'a vu 2, 3, 4 fois.
Oui, parce que s'il passe devant les 8, effectivement, ça fait 8 mérous.
C'est ça. Donc, toutes ces données-là, elles sont ensuite rassemblées. Et on va, c'est un peu des statistiques. Et on va finir par... On n'est pas sûr qu'il y ait 702 mérous. Mmh. Il y en a peut-être 703, 701. Mais on a à peu près quelque chose, c'est ce qu'on appelle un comptage relatif qui nous donne vraiment une ordre de grandeur de ce qu'il y a dans la réserve.
les enfants, ils sont, et vous leur en parlez, ils sont intéressés par l'aspect économique de la mer, parce que qui dit mer dit pêcheur. Autrefois, je pense qu'il doit rester quelques pêcheurs à Bagnoles et quelques-uns sur la côte, mais c'est en voie de disparition. Est-ce que l'économie de la mer, c'est quelque chose dont vous leur parlez et quelque chose qui les intéresse ?
On n'enlève jamais, nous, l'humain, de l'écosystème, effectivement. Mmh. Du coup, c'est un... que ce soit un scientifique, que ce soit un pêcheur, que ce soit... Enfin, on... c'est des gens qui font partie, nous, du milieu marin, en fait. Et, alors, dans nos ateliers, nous, ici, à l'aquarium, c'est une thématique que, pour l'instant, on n'aborde pas encore, mais on a envie de faire quelque chose là-dessus. C'est des choses vers lesquelles on va peut-être aller. Mais ensuite, il y a surtout, en fait... c'est dans notre partenariat avec le parc marin où on est beaucoup là-dessus, puisqu'on est sur de la gestion, on est sur, justement des utilisateurs d'un endroit et comment on fait pour que tout le monde cohabite à cet endroit-là. Donc là, oui, quand on va dans les classes, les trois séances, la première séance, c'est découvrir le milieu. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Typiquement, l'herbier de Posidonie. L'herbier de Posidonie, un endroit emblématique de Méditerranée, on retrouve que ça en Méditerranée. On a une deuxième séance, on va voir qu'est-ce qui impacte ces herbiers. Et là, on va parler des ancrages qui vont les arracher, de comment... Et ensuite, du coup, il y a une dernière séance où là, on leur donne un rôle à chacun des enfants. Il y en a un qui va être l'élu, il y en a un qui va être le restaurateur, il y en a un qui va être le pêcheur, il y en a un qui va être le tourisme, il y en a un qui va être le poisson qui vit dans l'herbier, il y en a un qui va être... Et tout ça ensemble, eh ben, on fait une sorte de jeu de rôle et qui les amène à débattre, à dire moi je suis le pêcheur, j'ai besoin de pêcher, il faut que comment je peux maintenir mon activité. Donc tout ça, on les met vraiment comme quand ils font dans un conseil de gestion du parc, on essaye de les faire réfléchir là-dessus.
Et ça fonctionne bien.
Et ça marche bien, ouais. L'outil du jeu de rôle, c'est quelque chose qui leur permet de débattre. Et alors, on ne peut pas faire ça avec des tout petits parce que c'est difficile. Mais à partir du cycle 3, c'est-à-dire les CM2, dès qu'ils ont autour de 10 ans, on arrive à les faire fonctionner comme ça. Ouais.
Vous leur parlez des espèces invasives. Alors ici, on a connu le crabe bleu. Enfin, on le connaît toujours. Il est un peu parti, notamment dans l'étang de Canet, où il a un peu ravagé l'étang à une certaine époque. Je crois que ça s'est un tout petit peu calmé.
Sur les crabes ?
Ouais.
Oui, effectivement, ouais. Le crabe bleu, il y a eu apparemment, ces derniers temps, c'est un petit peu diminué, mais pareil, on a des collègues là, qui travaillent dessus, qui sont bien plus qualifiés que nous pour répondre à ce genre de questions. Mais sur les espèces invasives, oui, évidemment, on va trouver des algues, notamment la colerpe qui se développe pas mal, et des espèces qui viennent notamment de la mer Rouge qui remontent au fur et à mesure. Donc ça, on peut en parler effectivement hein, dans nos discours, que ce soit en visite guidée ou même ça peut arriver pendant qu'on fasse nos ateliers. On n'a pas d'atelier qui soit dédié justement à ça. Et puis, c'est aussi quelque chose qui évolue assez vite. Donc,
Et c'est presque plus facile pour nous de parler des espèces invasives à notre jardin, parce qu'on les a dans le jardin. On a des figuiers de Barbarie. Donc là, dans la visite, c'est assez facile. Ça se voit. Dans nos bassins, on aimerait avoir un bassin où on aurait espèces invasives, un milieu qui n'en a pas, montrer la différence. Mais c'est compliqué techniquement à faire. Alors qu'au jardin, quand on se balade dedans, on a... dans notre jardin, certaines espèces exotiques envahissantes. Et du coup, là, c'est à cet endroit-là qu'on va plus en parler.
Je vais vous poser une question, mais vous allez me dire que ce n'est pas à vous de répondre, mais jusqu'à quand on est une espèce invasive ? Parce qu'à force, une fois qu'on a colonisé un territoire, c'est un peu le problème des migrations des hommes ou de l'immigration, finalement. Une fois qu'on est sur ce territoire-là, on y reste. S'ils viennent chez nous, c'est peut-être parce que les eaux sont plus chaudes ou sont moins agréables chez eux, moins propices à leur développement.
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit des déplacements de population. Aussi dans le milieu marin. Typiquement, l'eau qui se réchauffe, les poissons qui aiment l'eau un peu plus chaude vont venir un peu plus, et puis celles qui l'aiment froide vont aller voir ailleurs ou plus profond. Ça, c'est faisable quand on est un poisson. Quand on est un corail qui est accroché sur un rocher, et je ne peux plus me déplacer. Donc, on voit des déplacements, effectivement, comme ça. Ce qui se passe aussi, c'est que, effectivement, certaines espèces qu'on va dire maintenant exotiques, envahissantes, alors ça change tout le temps de nom, mais elles sont considérées comme envahissantes à partir du moment où elles prennent la place du reste et qu'elles finissent par recouvrir et finissent par être seules à cet endroit-là. Pendant très longtemps, on a eu la Colerpa taxifolia, qui était une algue dans les années 80, les années 80 qui a pendant une dizaine d'années, on l'a considérée comme invasive, parce qu'elle recouvrait, elle recouvrait, elle recouvrait. Et ça s'est régulé, elle s'est régulée d'elle-même. On considère maintenant qu'elle fait partie, certains scientifiques...
Donc ça veut dire qu'on est invasif jusqu'à la deuxième ou troisième génération. C'est, comment...
c'est comme
pour les hommes, et après, ben, on est implanté. Et...
Sauf si on prend la place de tout le monde. Si à la fin, il n'y a plus que nous, ben, on reste invasif, en fait. Ouais, c'est ce qui est un peu le crabe bleu, par exemple, actuellement, c'est que...
Ou l'homo sapiens, il y a quelques milliers d'années.
Exactement.
On est toujours... On a envahi toujours quelque chose, ou un territoire, ou quelqu'un. Il y a d'autres intervenants, comme par exemple les Amis du Laboratoire Arago, je crois.
Alors, les Amis du Laboratoire Arago, c'est une association, effectivement. Ouais.
Qui vient aussi à votre appui, ou pas du tout?
On travaille pas mal avec eux, notamment on a un projet avec les scolaires de l'école de Banyuls, typiquement. C'est un peu géré par les Amis du Laboratoire Arago. Ce qui se passe aussi, c'est que l'une des grandes... Enfin, ce que font cette association, c'est de proposer une conférence grand public tous les mercredis, enfin, un mercredi par mois.
Dans
l'amphithéâtre du laboratoire. On a essayé de monter avec eux, en complément de ces conférences-là, des conférences métiers, nous, chez nous. C'est-à-dire qu'un des personnels du laboratoire, on va faire une visite guidée du public qui va s'inscrire pour faire la visite de l'aquarium. Et à la fin, ils ont une demi-heure d'échange avec quelqu'un qui vient présenter son métier au laboratoire. Cette année, on a eu le capitaine du bateau du labo qui a fait qui a présenté son métier, a expliqué à quoi il servait et comment il travaillait ici. On a des techniciens qui font ça, des ingénieurs qui viennent présenter leurs travaux, présenter leur métier. Vraiment, on est sur le métier. Quel est leur rôle au sein de l'observatoire? Et ça, on le fait en partenariat avec les Amis du laboratoire.
Parce que finalement, ici, il y a beaucoup d'unités de recherche. Ailleurs, on dit des départements, mais je crois qu'ici, ce sont les unités de recherche, certainement très pointues, mais pour le grand public, on ne sait pas ce que font ces gens.
C'est très compliqué, ça. Il y a 4 unités de recherche, effectivement. Mmh. Alors, on est 200 en tout, hein, à l'observatoire, déjà. Enfin, ça reste quand même conséquent pour Banyuls.
C'est une grande maison.
C'est ça.
En liaison avec Paris, avec le CNRS.
On est l'université de la Sorbonne.
Et la Sorbonne, oui.
Nous sommes des employés, moi et Pierre, de l'université de la Sorbonne. Voilà, donc qui a des campus en fait en dehors de Paris, dont 3 qui sont sur les côtes.
Ouais, c'est pas trop mal hein, d'être ici quand même.
Hein. On est mieux, ouais, on est pas mal. Enfin, ouais. Ils sont jaloux en général, quand ils sont contents de venir.
Oui, je me doute, oui. Donc il y a aussi des gens qui font... J'ai vu des conférences, des lectures, donc c'est ce que vous évoquiez certainement. Ouais.
Voilà, comme je vous dis, nous, il faut vraiment qu'on interagisse avec notre public. Donc, typiquement, quand Noël arrive, on va faire des lectures de contes pour les enfants le mercredi après-midi. On va avoir ces petites conférences métiers aussi qu'on organise régulièrement. Et puis, les vacances scolaires, c'est de l'animation dans notre circuit de visite avec des thématiques qui changent à chaque vacances.
Alors, vous qui regardez beaucoup vers l'extérieur du labo, vous avez des relations avec vos collègues de l'intérieur ?
C'est la chance qu'on a, nous. On fait de la médiation scientifique, on fait partie d'un laboratoire. C'est unique, en fait, d'avoir comme ça un centre ouvert au public.
Donc c'est beaucoup plus riche qu'un un aquarium classique où on va passer...
C'est plus riche, mais en tout cas, nous, c'est plus facile. On n'a qu'à traverser la rue, on n'a qu'à monter l'étage du dessus pour aller voir les collègues qui sont nos collègues avec qui on mange le midi. Donc l'échange, il est
permanent.
Il est permanent. Ça devient nos amis aussi, puisqu'on travaille ensemble. Donc, on a cette chance-là, ouais, d'avoir accès aux travaux de recherche très facilement.
Vous parlez à tous vos jeunes, et bien aux adultes d'ailleurs, vous parlez de l'état assez pitoyable des océans, des mers, vous leur parlez de la fonte des glaciers, vous leur parlez du réchauffement, des canicules marines, de l'acidification.
Ce sont toutes des thématiques qu'on aborde. Alors, on n'a pas non plus, nous, une mission d'être militant.
C'est pas être militant, mais donner les faits.
Voilà, on donne les faits, on explique ce que font les scientifiques, on montre leurs résultats, et ensuite les gens se font leur opinion. Voilà. Mais effectivement, ce sont les thématiques actuelles que l'on aborde. Le changement climatique, l'impact de celui-ci, les pollutions. Il y a toute une unité de recherche nous, qui travaille ici sur l'écotoxicologie, l'impact des polluants, des crèmes solaires sur le milieu marin. C'est des thématiques qu'on va aborder avec le public. Ça va être aussi tout ce qui est autour de justement, on parlait tout à l'heure des déplacements des populations et ainsi de suite, de comment tout ça s'équilibre ou pas dans le milieu marin.
Est-ce que vous sentez chez les uns, chez les autres, et chez les jeunes, une angoisse sur l'avenir?
Alors,
est-ce qu'ils l'expriment?
Je dirais que C'est ma perception des choses. Effectivement, il y a une énorme anxiété, je trouve, de beaucoup de,
vous appelez,
de jeunes collègues.
Vous le sentez, une anxiété
chez certains de nos collègues, oui, clairement. Après, ça va dépendre des gens. Mais oui, moi, je trouve que c'est de plus en plus présent. Après, ça va vraiment dépendre, je trouve, des générations.
Les jeunes, alors pas les tout jeunes encore.
Pas les tout jeunes, mais...
Ils ne sont pas dans l'anxiété, mais par exemple des lycéens, 16, 17, 18 ans, qui perçoivent, qui réfléchissent, qui analysent, vous les sentez inquiets pour la
vie. Moi, j'ai deux choses. Il y a deux comportements très différents que j'observe, que j'ai observé. C'est ceux qui, effectivement, ont cette anxiété-là, parce qu'ils sont sensibilisés de tout petit à ça, et du coup... Et puis, il y a ceux qui ont un rejet, parce que, justement, on en aura trop parlé pendant longtemps. Il y a cette période un peu particulière du lycée de première terminale où certains ne veulent plus qu'on leur fasse du changement climatique, ne veulent plus qu'on leur fasse de l'impact des pollutions, et qui, du coup... ça les barbe. Je pense qu'ils y reviennent quand ils sont étudiants et qu'ils se rendent compte, mais il y a un petit passage là, et puis ça c'est un échange que j'ai avec les enseignants qui me disent ça aussi, qui eux ils disent c'est dur d'aborder maintenant ces thématiques là parce qu'on leur a presque trop, pas bourré le crâne, mais qu'on leur fait depuis, voilà, bah, trop longtemps.
C'est un peu la vie quotidienne,
c'est ça.
C'est notre milieu, c'est une question existentielle quasiment pour l'homo sapiens.
Je pense que c'est lié aussi à la période, à l'âge, voilà, de se faire sa propre opinion et qu'on arrête de me dire voilà, les choses comme ça, je pense. Donc chez les lycéens, soit ils sont très engagés, très un peu dans l'angoisse, ou soit ils sont réfractaires à ce qu'on leur en parle.
Qu'est-ce qui vous manque ici pour avoir tout ce que vous désiriez, ce que vous aimeriez avoir, autre chose vous avez certainement plein d'idées.
Ah, c'est toujours une question de moyens. Plus on a de moyens, plus on peut faire de choses. Et nous, nos jours de fréquentation les plus importantes, c'est les jours de pluie. Puisque c'est un peu... Et on ne va pas vers plus de jours de pluie. Donc,
vous pensez qu'effectivement, le réchauffement climatique...
C'est pas très bon pour notre fréquentation. Voilà, parce qu'on a quand même un fonctionnement un peu particulier. C'est qu'on a beau faire partie de l'université de la Sorbonne, on est sur nos ressources propres. Donc tout le fonctionnement du biodiversarium est financé par les recettes que l'on fait, les entrées, notre boutique et les scolaires qu'on accueille, et ainsi de suite. Donc c'est cet argent-là qui permet, nous, de payer le personnel et de faire fonctionner le...
Mais en dehors de ça, dans un aquarium idéal, qu'est-ce que vous aimeriez faire en plus ? Vous aimeriez montrer en plus, ou quelles actions vous aimeriez mener que vous ne...
Il y a un projet touristique que tu voulais monter.
Ouais, on aimerait pouvoir intégrer peut-être un peu plus de choses numériques dans notre qui sont pour faire de la réalité augmentée, pour faire des choses qui permettent d'aller un peu plus loin et que les gens n'aient pas besoin de discuter avec nous, parce que c'est beaucoup de présence, nous, c'est pas évident d'être tout le temps là, mais qu'ils puissent, eux, interagir plus avec l'environnement qu'il y a dans l'aquarium que juste observer des animaux dans les bassins. Donc ça demande des moyens aussi, ça demande du temps, ça demande de... Dans l'idéal, moi, j'aimerais que, voilà, qu'il y ait des choses qui permettent aux gens de s'approprier ce qu'ils ont autour d'eux sans que nous, on soit présents.
Quelle question je ne vous ai pas posée et auxquelles vous auriez aimé répondre ? Je vais peut-être pas balayer toute la problématique.
Ah, il y a un rôle que c'est vrai dont on n'a pas trop parlé, c'est que notre service de tous les parcs zoologiques, tous les aquariums ont des missions de conservation. C'est-à-dire que nous, on a le responsable du service d'aquariologie et le conservateur de l'aquarium. C'est lui qui a les diplômes, la capacité, le droit d'avoir des espèces, telles espèces, et de les maintenir dans un aquarium. Et il monte des projets de conservation où on essaye justement de protéger, d'avoir un impact sur ce qu'il y a dans la mer. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Il a beaucoup travaillé sur la grande nacre. À un moment, il a beaucoup été sur le crabe bleu dont on a parlé tout à l'heure. C'est un peu lui qui a initié, en fait, même le conservateur qui s'appelle Pascal Roman du Biodiversarium, qui en était le directeur autrefois, a été le premier à vraiment être sur la problématique du crabe bleu dans les temps de canet qu'on avait. Il a passé la main à d'autres scientifiques. Et puis maintenant, il est sur quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'on nous dit souvent... Or, il n'y a plus d'étoiles de mer, il n'y a plus d'oursins. Je ne retrouve plus dans l'eau tout ce qu'il y avait quand j'étais petit.
Oui,
quand
sur la plage, on ne retrouve plus de coquillages. Avant, on ramassait des coquillages, mais on n'a plus rien à ramasser.
Et bien, du coup, ça, il veut déjà vérifier si c'est vrai. Donc, du coup, il est en train de... Son projet de conservation actuel, c'est d'aller observer ce qu'il y a dans les petits fonds rocheux, Vraiment quand on est au bord de l'eau, les endroits qu'on va avoir juste sous nos pieds, et de quantifier et de regarder les espèces qui sont présentes, et de comparer avec toutes les archives que nous, ici, on a au laboratoire, pour vraiment, scientifiquement, dire effectivement, il y a moins de choses ou il y a plus de choses, et en telle quantité. Donc ça, c'est par exemple des projets qui sont liés à la conservation, qui sont menés ici par Pascal Roman.
Donc, un nouveau champ de recherche.
On fait un peu de recherche grâce à Pascal. Il a une activité scientifique à l'observatoire.
Alors, détail pratique pour terminer cette conversation. Quand on vient à l'aquarium, au biodiversarium, il y a des horaires particuliers, il y a des jours de fermeture?
On est ouvert du mardi au dimanche. Le lundi est le jour de fermeture pendant la période qui n'est pas estivale. Et là, on est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Et ensuite, pendant les vacances scolaires et pendant l'été, on a un fonctionnement un petit peu différent. Pendant les vacances scolaires, le lundi, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, mais de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Et puis l'été, on est ouvert de 10h à 19h tous les jours en continu.
Et il y a un site où on peut vous retrouver, bien évidemment,
qui est biodiversarium.fr.
Plus, dans l'entrée, il y a une boutique où on peut retrouver un certain nombre de livres. Moi, je suis un homme du livre, donc quand je vois des livres, je vais toujours les feuilleter.
On a une boutique qui est un petit peu particulière. On a vraiment une boutique qui est axée sur la science, sur les livres, sur... Alors évidemment, on a des peluches, hein, parce que c'est quelque chose que tous les enfants ont envie d'avoir, mais on est sur même des petits microscopes. Enfin, on va être sur une boutique qui est axée sur... Et puis, on essaye de tendre vers une boutique zéro plastique, ce qui n'est pas évident. Parce que nous, c'est un peu paradoxal si on commence à vendre des choses qui viennent un peu partout, alors que nos collègues...
Vous devez être vertueux.
On doit être au plus possible vertueux.
Bon, merci à tous les deux de cette présentation. Donc, le biodiversarium, Bagnols-sur-Mer, l'aquarium et le jardin méditerranéen, qu'on connaît moins, parce qu'on en parle beaucoup moins, puis c'est vrai qu'on ne s'attend pas à trouver un jardin dans un aquarium, c'est un peu particulier. Merci Grégoire Perrin, merci Pierre Parmentier de nous avoir... expliquer tout ce fonctionnement. Et puis, ben écoutez, j'espère que vous aurez dans l'avenir beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont venir, qui vont s'intéresser, qui vont peut-être, grâce à vous, amorcer une réflexion sur l'avenir de la planète qui va être aussi le leur.
Merci à vous.
Merci à tous les deux.
Merci.
Avant de nous quitter, et pour rester sur cette thématique mer-océan, je voudrais revenir sur les inquiétudes nourries par la fonte record de la banquise antarctique. En effet, la surface de cette banquise enregistrée autour du pôle sud à l'issue de l'hiver austral est la plus faible de l'histoire des relevés. Ce sont des données qui nous viennent du confins des mondes, ou du monde plutôt, peut-être aussi des signes précurseurs d'un changement d'air. Le 10 septembre, à la fin de l'hiver austral, la banquise antarctique a atteint son maximum actuel. Ce jour-là, les satellites n'ont recensé que 16,96 millions de kilomètres carrés. Il s'agit donc de la surface la plus faible de l'histoire des relevés, quasiment 2 millions en dessous de la moyenne qui avait cours en 2011, entre 2011 et 2020. En février, à la fin de l'été dans l'hémisphère sud, la banquise autour du pôle sud avait beaucoup fondu, atteignant son minimum historique avec 1,792 millions de kilomètres carrés. Et selon l'Institut américain national Snow and Ice Data Center, et je le cite, il est de plus en plus évident que le système de glace de mer de l'Antarctique est entré dans un nouveau régime caractérisé par une influence beaucoup plus forte des eaux océaniques chaudes. Et donc ces pertes aboutissent à un rejet net de 7,5 milliards de tonnes d'eau de fonte dans les océans sur cette période. Donc une perte de masse due à la fois à l'amincissement de la base et au retrait de l'extrémité de ces plateformes. Alors ces nouveaux indices sont-ils des signes de l'influence du réchauffement climatique d'origine humaine ou le début d'un changement de cycle dans la variabilité naturelle? Pendant de nombreuses années, l'Antarctique a été une grande énigme, tout simplement parce que si l'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde, la banquise du pôle Nord inquiète tous les scientifiques, mais la zone du pôle Sud semble réagir différemment et ne répond pas aux mêmes critères. La glace qui l'entoure n'a cessé de s'étendre jusqu'à un niveau très haut en 2016. Pendant longtemps, On n'observait pas concrètement les effets du réchauffement climatique, nous résume Mathieu Casado, qui est paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et il nous confirme que le réchauffement du continent austral est de 20 à 50% plus important que les prédictions. Effectivement, c'est quand même extrêmement inquiétant. Personne n'avait prévu un minimum aussi bas, une situation extraordinaire au premier sens du terme, c'est-à-dire que l'on sort de la gamme habituelle, nous dit Hugues Gosse, qui est climatologue à l'Université catholique de Louvain. Il est spécialiste dans le développement de modèles climatiques et dans l'influence entre l'eau de mer et la glace. Est-ce que cela est dû à la variabilité naturelle multidécennale ou est-on face à un changement de régime provoqué par l'homme ? Alors c'est une question existentielle. La réponse n'est pas encore très claire, bien que les spécialistes, comme par exemple Gaël Durand, qui est glaciologue au CNRS et à l'Institut des géosciences de l'environnement, paraît quand même s'être fait une religion sur cette affaire. Le travail sur la causalité des événements est très complexe dans l'Antarctique, notamment à cause de la faiblesse des observations, parce qu'il n'y a pas assez de stations météorologiques, parce qu'on n'a pas vraiment d'antériorité. Et puis, il faut intégrer d'autres facteurs très nombreux, les températures atmosphériques, celles de la mer, l'évolution des vents qui balayent les eaux de surface plus froides que certains courants en profondeur. C'est un système extrêmement complexe où il y a de multiples interactions. Et tout cela se joue sur une grande échelle de temps. Alors face à cette évolution rapide, les chercheurs ont des pistes, par exemple les chaleurs extrêmes au niveau des tropiques qui pourraient réchauffer les courants sous-marins qui remontent vers les glaces de l'Antarctique. À long terme, nous dit Claire Eyars, qui est climatologue, à long terme, elle diminuera de la même manière que celle de l'Antarctique. À l'approche de l'Arctique, pardon, parce que nous sommes dans l'Antarctique. Alors rappelons, l'Antarctique c'est le sud, l'Arctique c'est le nord. C'est toujours compliqué de s'en souvenir et de bien les situer. Donc l'Arctique, là, ça part à une vitesse très importante. Et à l'approche de l'été, dans l'hémisphère sud, dont l'Antarctique, la diminution des banquises va peut-être encore compliquer la situation. La banquise renvoie plus d'énergie qu'une mer découverte. Et depuis quelques années, on constate une augmentation de la glace dans certaines zones et une baisse dans d'autres. En 2023, le niveau est inférieur quasiment partout. Il sera donc très important maintenant de bien observer ce qui va se passer l'année prochaine. Avec moins de glace, la mer absorbe plus d'énergie, ce qui fait que la fonte peut s'accélérer dans les mois qui viennent. L'évolution du continent blanc, puisqu'on l'appelle souvent comme cela, est scrutée bien évidemment avec attention mois après mois. Une attention logique pour une zone dont les calottes glaciaires représentent, tenez-vous bien, un potentiel d'élévation de la mer de 60 mètres, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Voilà, je voulais toujours, en restant dans notre problématique des mers et océans, celle que tous les mois nous étudions avec les experts du laboratoire à gauche, je voulais vous parler de soucis que nous cause ce continent du Sud qui, malheureusement, est en train de prendre une très, très mauvaise direction pour l'humanité. Voilà, Arcania est terminé. C'était une émission de Jacques Lavergne avec, à la réalisation et montage, Léo Touroult, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. On ne lâche rien, surtout. Belle journée à toutes et à tous.